je vais commencer par les performances des élèves. Pour ce qui concerne les performances des élèves, on dispose tout d'abord d'épreuves d'évaluation, mais surtout, j'insiste, de critères d'évaluation. Alors, cette grille-là, je pense que vous l'avez déjà vue, hein, si vous avez notamment écouté la conférence de Roland Guagou. L'intérêt de ce genre de grille, c'est qu'elle est progressive. C'est-à-dire que quand on essaye d'évaluer les capacités d'encodage, là on est vraiment sur de l'encodage, hein, les capacités d'encodage des élèves, ce n'est pas réussi ou raté. Mais c'est une grille que vous allez pouvoir utiliser en formation de la maternelle jusqu'au CE1. Je ne reviens pas sur les différentes distinctions, hein, je pense que vous la connaissez cette grille. Mais c'est aussi important de savoir que quand on l'a élaborée au sein du groupe écriture de la recherche LIREC-RCP, on a vraiment pris en compte un ensemble de travaux sur ce que je vais appeler globalement les essais d'écriture. Je reprends ces termes des programmes, mais il me va bien parce que ça englobe différentes étiquettes possibles, que ce soit les écritures tâtonnées, les écritures approchées, l'orthographe, enfin, peu importe, hein, vous voyez, tous ces travaux-là. Dans une perspective de formation, du côté toujours des performances des élèves, eh bien, ce sont des repères sur ce que les élèves sont effectivement capables de produire. Pour un enseignant, c'est important de pouvoir situer ses élèves par rapport à un ensemble. Hein, ici, tous les élèves évalués dans le cadre de la recherche. Et même pour préparer la classe, pour préparer une formation, c'est pas mal, par exemple, de savoir que début CP, 45-46% des élèves ne transcrivent pas encore la forme orale. Et là, même, je vais même aller plus loin. Quand je voyais dans vos demandes, il y avait comment enseigner la production de phrases et de textes en début de CP. Je vais être plus précise en prenant en compte là, ces données-là. C'est comment enseigner la production de phrases et de textes début CP, sachant que quasiment, en moyenne, la moitié des élèves n'ont pas franchi le mur du son. C'est l'expression de Fijalkov, hein, qui, je pense que vous la connaissez. Donc, vous voyez, ça nous permet vraiment de cibler beaucoup plus les choses. Ça ne simplifie pas la donne, hein, mais bon. Alors, par rapport à ces résultats sur les performances effectives des élèves, je vais vous inviter à interroger la forme que vous allez utiliser en formation pour ces résultats. Là, vous avez devant vous une forme assez canonique par rapport à la recherche. Vous avez des pourcentages, vous pourriez avoir des moyennes, des écarts types, vous pourriez avoir des déciles, enfin voilà, hein, ce genre de langage qu'on utilise beaucoup en recherche. Ça peut être intéressant d'essayer d'adopter un autre regard, une autre logique plus proche, à mon sens, de la logique du terrain. Par exemple, si je vous montre ceci, j'ai pris exactement les mêmes données, hein, mais regardez comment je les présente. En encodage, début CP, la grande majorité des élèves semble avoir acquis l'usage des lettres pour écrire, la distinction entre le dessin et l'écriture, la linéarisation, on n'en parlait pas, de gauche à droite, l'écriture du prénom. Qu'est-ce que je fais là, l'air de rien? Je ne suis pas sur des difficultés, sur des échecs. Je suis sur des réussites. Voilà. Hein. Là, je suis en train de regarder les acquis. Et puis pareil, pour montrer l'évolution, fin CP, la grande majorité... Quand je fais ce travail-là, quand je dis la grande majorité, ça veut dire que je suis au-delà des trois quarts. Généralement, je suis à 80%, voire plus. Hein. C'est la fourchette que j'ai prise, c'est discutable. Hein, mais bon, elle me paraissait... Il me paraissait pas mal pour retravailler les données. La grande majorité des élèves fin de CP semble avoir acquis le principe alphabétique, la segmentation de la phrase en mots. Vous voyez la différence, on écrase peut-être un petit peu les résultats en adoptant cette logique, mais en même temps, on obtient un format qui, d'après moi, est plus utilisable en formation, plus intéressant pour la formation. En tout cas, alors, c'est pas pour rien, moi j'ai commencé à retravailler de cette manière-là. en formation de formateur, hein, où je voulais trouver des formats plus appropriés. Et je vois qu'au fil des formations, des interventions, les diapos qu'on me demande le plus, ce sont celles-là. Et ce n'est pas pour rien, je pense. Si concernant la copie, et plus précisément la copie différée, au-delà de l'épreuve de copie, si je vous montre ceci, ça va vous rappeler des choses, normalement. Hein. Donc dans le jardin de Léonard, il y a un arbre extraordinaire. Je reviens sur les critères, parce que ce sont principalement les critères qui m'intéressent. Souvent, quand on regarde, je dis souvent, parce qu'il faut éviter les surgénéralisations, mais quand on regarde la manière d'évaluer, de noter les copies, la copie dans les classes, c'est est-ce qu'il y a des erreurs ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a des erreurs de copie, des mots oubliés, des lettres oubliées ? Est-ce qu'il y a des erreurs dans la formation des lettres ? Mais c'est très rare qu'on trouve des choses en termes de temps. Encore plus rare qu'on trouve des choses en termes de procédure. C'est-à-dire, par exemple, ici, quel est l'empan que l'élève a utilisé pour copier ? L'empan, vous voyez, c'est vraiment la taille de l'unité traitée. Ou autre procédure qu'on avait insérée dans la recherche, parce que ça renvoie aux travaux d'Eliane Fijalkoff, qui montre que les élèves qui utilisent un processus d'oralisation, on les voit parfois quand ils transportent une unité en copie différée, vous voyez, ils les annonnent. Hein, ça, donc, que ça les aide à garder en mémoire ce processus-là. Autre élément important pour nous évaluer, c'est la capacité finalement de l'élève à copier fin de CP en passant du script à la cursive. Et en termes de formation, si on considère qu'on évalue ce qu'on a enseigné, eh bien ça devient un outil très intéressant pour interroger les pratiques enseignantes. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui a été enseigné ? Quelle procédure a été enseignée ? Est-ce qu'il y a eu un travail dans la classe sur les unités transportées en mémoire ? Est-ce qu'il y a eu un travail dans la classe sur la vitesse de copie ? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui me semblent vraiment importantes. En copie différée, fin CP, finalement la grande majorité des élèves semble avoir acquis le passage du script à la cursive, la formation correcte de la majorité des lettres en cursive, la capacité à copier une phrase de 8 mots en 3 minutes ou moins, la copie sans erreur de mots brefs très fréquents comme le, un, il, ia, etc. Oui. Et puisque je suis dans une logique de progression, mais de regard positif sur l'élève, je ne vais pas parler d'échec, hein, mais je vais parler de la plupart des élèves, de nouveau je suis dans ce seuil, hein, plus de 75% des élèves de fin de CP progressent et sont en train d'acquérir la copie d'un empan égal ou supérieur au mot. Oui, ça fait quand même des sacrés repères là, pour les enseignants, hein, ça leur parle. La copie des majuscules et des signes de ponctuation dans la phrase, c'est souvent oublié. La copie sans faute de mots longs et peu fréquents, par exemple dans notre épreuve extraordinaire, le recours à une technique d'oralisation et un peu de vitesse en copie. Vous voyez le déplacement du regard, hein ? Je passe à l'épreuve, aux épreuves même de production d'écrit, la fameuse épreuve du petit chat, hein, que vous reconnaissez sans doute aussi. Puis la seconde épreuve pour la fin de CE1, avec quatre personnages, et la consigne était « voici les quatre personnages, choisissez un des deux personnages et raconte une histoire ». On est donc sur deux épreuves de production de textes narratifs. Et à nouveau, ce qui me paraît intéressant, ce sont les critères. C'est pas facile, quand on travaille en formation, sur selon vous, quelles sont les capacités des élèves en production d'écrit, en production de textes narratifs ? Vous voyez, c'est une question compliquée quand même. Hein ? Donc là, on a vraiment une base de réflexion pour la formation sur comment peut-on évaluer en fin de CP, puis en fin de CE1. Et à nouveau, c'est intéressant parce que ça peut nous donner des indices en termes de progression. C'était une des questions qui était posée, hein, quid dans vos retours, quid de la progression au-delà du CP. Et ici, j'ai mis en vert finalement les critères qu'on a fait bouger entre le CP et le CE1. Donc vous voyez par exemple le CP, longueur de texte produit, mais au CP, la longueur du texte, on va l'évaluer en nombre de lettres tracées. On fait des fourchettes. Hein. On va évaluer la capacité à segmenter, mais par exemple, ça va être la proportion de mots correctement séparés. Est-ce que les mots sont tous agglutinés ou est-ce que la plupart des mots sont séparés ou est-ce que dans l'ensemble, tout est séparé, oui. La lisibilité, ça aussi c'est un critère important. Est-ce que le texte est déchiffrable à haute voix sans effort? On n'est pas sur des critères qu'on appelle adultocentristes. Souvent, quand on est face à la production d'écrit, le problème, c'est qu'on vient avec des exigences de bons scripteurs, de scripteurs expérimentés. Donc il faut chaque fois rappeler ce dont est capable un scripteur novice, un débutant. Et donc ajuster les critères d'évaluation par rapport à ses capacités. Pareil, quantité d'informations, ça c'est aussi relié à la situation d'évaluation. Selon l'épreuve que vous allez donner, vous n'allez pas évaluer tout à fait la même chose. Et les traces de narration, ça peut être un titre, hein, une formule d'ouverture, de fermeture, les temps du passé et les reprises pronominales. Si je passe aux critères pour les productions fin de CE1, vous voyez que c'est assez proche, mais par exemple pour la longueur du texte, on va compter en mots et non plus en nombre de lettres. Pour la segmentation, on augmente la difficulté. On est sur, est-ce qu'il y a deux erreurs différentes ou plus ? Oui, donc, hop, on voit bien, hein, qu'on a passé un cap en termes d'exigence. On va aussi regarder, par exemple, davantage la morphosyntaxe, parce qu'on estime qu'il peut se passer des choses intéressantes entre le CP et le CE1 au niveau de cet apprentissage. Et puis, pareil, pour la production de textes narratifs, oui, ça, c'est les diapos qui étaient présentes que Roland avait repris dans sa conférence. Donc, je passe un peu vite pour le CP, mais vous voyez exactement la même logique. La grande majorité des élèves semble avoir acquis. Hein, vous aurez le PowerPoint, hein, donc je me permets d'aller un peu plus vite. Et la plupart des élèves, fin de CP, progressent et sont en train d'acquérir. Ce qui, là, dans cette logique, donne des repères pour les enseignants aussi de CE1. Et quand on prend le CE1, pareil, hein, vous voyez, fin CE1, la grande majorité des élèves semble avoir acquis le principe de la segmentation graphique et l'usage du blanc entre les mots, une maîtrise suffisante du geste graphique pour écrire de façon lisible, une maîtrise suffisante de l'encodage graphophonologique pour écrire de façon lisible, l'usage, on y est, de la majuscule en début de texte et ou l'usage du point final, des stéréotypes du genre narratif, la capacité à mettre en relation et à marquer des relations au sein du groupe nominal et la présence d'un verbe conjugué, pas spécialement bien orthographié, mais quand même d'un verbe conjugué dans la phrase. Donc là, on pourrait parler de conscience de la phrase, hein, conscience syntaxique. Et puis, même logique, de nouveau, c'est pour répondre à ceux d'entre vous qui se posaient des questions sur Equid au-delà du CP et tout au long du cycle 2, vous voyez, avec ces résultats-là, puisqu'on est dans une logique de ce qu'ils sont en train d'apprendre, et là où ils sont en train de progresser à la fin du CE1, mais ça nous donne des indices, hein, pour le CE2. Ils sont en train d'apprendre l'usage des connecteurs autres que « et alors », les reprises pronominales, la caractérisation des personnages, et l'indication des références spatiales, la clôture, par exemple, de l'écrit par une situation finale, il n'est pas toujours présente, l'usage constant de la majuscule et du point, l'accord du verbe avec la personne, la capacité à produire un texte narratif d'une longueur de 8 à 10 lignes, voire plus. Donc là, j'attire bien votre attention sur le fait que ce sont pas les prescriptions officielles, on est d'accord, hein, c'est vraiment l'observation de ce que font effectivement les élèves.